Descartes et la morale.
On souligne souvent que Descartes n'a pas traité de morale. En tout cas, pas de manière approfondie, et encore moins de manière systématique. On ne trouve pas chez lui de traité de morale, comme on en trouve par exemple chez Malebranche, pas non plus chez lui de maximes de morale, telles qu'on pourra les trouver par exemple chez La Rochefoucauld. Pourtant, la morale désigne bien, dans l'arbre du savoir de la lettre préface au principe de la philosophie, une des trois plus hautes branches, avec la mécanique et la morale. Et en tant qu'il s'agit d'un savoir appliqué, ce savoir peut être considéré, selon les mots de la sixième partie du discours de la méthode, comme le plus important de l'entreprise cartésienne. Le problème principal est de savoir quel statut on accorde à cette morale provisoire définie dans le discours de la méthode. On l'a souvent rapproché du stoïcisme, et en tout état de cause, dans le projet cartésien, elle reste définie de manière négative pour dégager un champ de manœuvre pour que l'esprit se mette sur le plan théorique en quête de la vérité. Cette morale consiste en des conseils généraux de prudence, se tenir le plus éloigné que possible de l'excès pour être à peu près certain de n'être pas dans l'erreur ou de ne pas l'être trop, respecter les lois et coutumes de son pays, plutôt changer ses désirs que l'ordre du monde. Il s'agit en somme d'une morale du juste milieu qu'on pourrait par certains aspects trouver décevante au regard des affirmations détonnantes auxquelles Descartes nous a par ailleurs accoutumés. Cette morale provisoire a engendré trois types d'interprétations. La première soutient que la morale définitive n'aurait jamais été écrite par Descartes et que cela constituerait un manque au point que les cartésiens estiment ensuite nécessaire de s'en charger. Régis, Hamline, Malebranche, etc. pour venir combler justement ce manque. Le problème évidemment de cette interprétation, c'est qu'elle laisse à la réception le soin de régler cette question morale. La deuxième voie possible consiste à soutenir que la morale définitive se trouvera bien chez Descartes, mais pas dans le discours de la méthode, plutôt dans le traité des passions de l'âme, et particulièrement lorsqu'on considère sa doctrine de la générosité. Qu'est-ce que la générosité ? C'est cette capacité qui consiste à s'estimer soi-même pour la seule chose qui nous rende véritablement dignes d'être estimés, c'est-à-dire le bon usage de notre liberté. Quel est le problème ici ? C'est qu'on risque de rester dans l'idée d'une morale idéale, couronnée par ce type du généreux, et d'oublier que si la générosité désigne bien une capacité de tout homme, dans les faits, les hommes se comportent majoritairement de manière peu raisonnable, comme Descartes l'explique à Élisabeth. Une troisième interprétation consiste à soutenir que la morale définitive, c'est la morale provisoire, parce qu'en réalité, on ne peut pas dire plus ni mieux de ce domaine mouvant, changeant, de l'expérience et des rencontres de la vie, qui, en tant que telles, sont inanticipables. Le problème de cette troisième interprétation, c'est qu'évidemment, on perd l'exigence de la norme commune. Du coup, on pourrait peut-être trouver un moyen de penser une morale à la fois exigeante et positive en conjuguant ces deux dernières interprétations. Et on pourrait comprendre à partir de là les raisons pour lesquelles Descartes n'a pas écrit de traité de morale. La morale désignerait un savoir à la fois théorique et empirique, mais qui, en tant qu'empirique, justement, justifierait qu'on ne puisse pas le systématiser dans un traité. Les conséquences de la prise en considération de cette dimension empirique de la morale cartésienne sont très importantes pour notre compréhension du cartésianisme en général. D'une part, au sein de l'œuvre de Descartes, notre attention se trouve déplacée des écrits officiels valorisés dans une histoire à dominante spiritualiste vers les passions de l'âme et surtout vers la correspondance, particulièrement vers la correspondance avec Élisabeth. Ensuite, cela nous permet d'ancrer le cartésianisme dans une réflexion sur les hommes tels qu'ils sont et de le rapprocher de considérations politiques et morales comme celles de Hobbes ou de Machiavel, que Descartes critique sur le plan métaphysique, mais dont il discute et considère avec intérêt les travaux sur le plan politique. Cela n'implique pas pour autant de congédier l'importance de la générosité dans l'œuvre de Descartes. Cela n'implique pas non plus de nier la nécessité pour tout homme de travailler à l'actualisation en lui et au quotidien de cette générosité. Mais cela nous invite à réfléchir sur le statut exact de cette générosité et à la considérer comme une exigence qui s'éprouve dans les différentes situations de la vie et qui s'actualise, s'incarne dans une histoire et au milieu d'autres hommes. En conclusion, on peut dire que Descartes nous propose une morale à la fois exigeante et praticable est d'autant plus exigeante qu'elle se fonde sur une authentique prise en considération des conditions anthropologiques de son exercice.